VOA Afrique, les infos à Washington.
Pierre Morin-Gibourg avec vous en direct du studio de la rédaction de VOA Afrique. Bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Ce soir dans l'actualité africaine, au Mali, le Premier ministre Soumaïlou Boubeïgué Maïga, en visite à Mopti, dans le centre du pays, a promis un déblocage d'urgence de plus d'un demi-milliard de francs CFA, et ce pour la sécurisation de l'armée et de la région. Le chef du gouvernement a aussi assuré que le premier tour de l'élection présidentielle se tiendrait le 29 juillet. Au Niger, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Niamey pour demander l'abrogation de la loi de finances 2018 qu'elles jugent antisociale. Les manifestants, aussi nombreux que lors de leur précédente action le 28 janvier dernier, ont défilé dans les rues de la capitale puis tenu un meeting devant le Parlement qui a voté cette loi à une écrasante majorité fin novembre 2017. Au Cameroun, trois gendarmes ont été tués à Kembong, dans la région anglophone du sud-ouest. Le colonel Didier Badjek, porte-parole de l'armée camerounaise, a déclaré que les auteurs de ces crimes avaient déjà été arrêtés. À Batibo, dans le nord-ouest anglophone cette fois, c'est la voiture du sous-préfet Namata Diteng qui a été retrouvée brûlée ce matin. Son propriétaire, le sous-préfet, reste introuvable. C'est le témoignage du député de Batibo, présent sur place, Joseph Bamdam. En RDC, la nouvelle chef de la mission des Nations Unies, l'Algérienne Leila Zerougui, a pris ses fonctions aujourd'hui dans un climat de tension larvée avec les autorités. Il y a quelque temps, le président congolais Joseph Kabila a ouvertement et sévèrement critiqué la MONUSCO et l'a accusé de n'avoir neutralisé aucun groupe armé. Au Soudan, le président Omar El-Béchir a limogé Mohamed Atta, le chef du NISS, le puissant service du renseignement, cet organe impliqué dans la répression des récentes manifestations anti-gouvernementales. C'est Salah Abdallah Mohamed Saleh qui en prend la tête, monsieur Saleh qui connaît bien le NISS, puisqu'il était déjà à sa tête lorsque Mohamed Atta l'avait remplacé en 2009. En Afrique du Sud, le discours de Cyril Ramaphosa à l'occasion des cérémonies du centenaire de la naissance de Nelson Mandela était très attendu. Engagé dans des négociations qui piétinent avec le chef de l'État Jacob Zuma pour obtenir son départ anticipé, le nouveau patron de l'ANC a promis que les personnes corrompues seront jugées. Ce sont ces termes. Et puis en Tunisie, 50 adolescents âgés de 13 à 17 ans et candidats à l'émigration clandestine ont été arrêtés hier soir par la police près du port de La Goulette à Tunis. Ces adolescents avaient prévu de se faufiler dans un des navires marchands amarrés au port afin de rejoindre l'Europe clandestinement, selon un communiqué du ministère tunisien de l'Intérieur.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
L'actualité dans le reste du monde. En Russie, un avion de ligne s'est écrasé ce matin près de Moscou, peu après avoir décollé de l'aéroport de Domodedovo, causant la mort des 71 passagers et membres d'équipage à bord. Les autorités russes ont indiqué étudier toutes les hypothèses comme possibles causes, citant les conditions climatiques, le facteur humain ou un problème technique, mais ils n'ont pas mentionné la piste terroriste. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est félicité d'avoir porté un coup sévère aux forces iraniennes et syriennes après les raids aériens d'hier qui constituent la pire confrontation d'Israël avec Téhéran depuis le début du conflit syrien en 2011. Les mises en garde envers l'Iran se sont multipliées aujourd'hui en Israël. Et puis en Iran, à l'occasion du 39e anniversaire de la chute du régime du Shah, le président Rouhani a lancé un appel à l'unité, recommandant aux dirigeants de faire confiance au peuple. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité. Pour plus d'informations, retrouvez-nous 24h sur 24 sur notre site internet voaafrique.com et sur notre page Facebook, bien sûr. Excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Merci d'être là et merci de nous écouter. Eric Manelakidza avec vous dans ce dialogue des religions. Ce soir, nous parlons de la franc-maçonnerie. D'après vous, c'est quoi la franc-maçonnerie? Êtes-vous familier avec les francs-maçons? Quelles sont vos perceptions vis-à-vis d'eux? Voilà les différentes questions que nous avons postées sur votre page Facebook. Nous avons reçu beaucoup de commentaires pour justement donner vos points de vue. Nous avons un invité qui est en ligne, c'est Monsieur Denis Ferré. Monsieur Ferré, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue dans ce dialogue des religions.
Merci.
Voilà, la franc-maçonnerie, est-ce une organisation religieuse?
Non, c'est pas une organisation religieuse. Il y a une définition qui a été donnée. Vous savez que la franc-maçonnerie est née sous le siècle des Lumières, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. Et il y a une définition qui a été donnée par les anciens, qui a été reprise d'ailleurs par certaines obédiences, qui dit que la franc-maçonnerie est une association philanthropique, philosophique et progressive, et qu'elle a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale et la pratique de la solidarité. Donc on n'est pas dans une croyance qui nécessiterait un dogme, au contraire, on est dans une association avec beaucoup de liberté, en fait.
Oui, vous êtes vous-même franc-maçon. Comment est-elle organisée? Y a-t-il des structures hiérarchiquement connues?
Alors, il y a des structures hiérarchiquement connues qui s'appellent les obédiences. Les obédiences qui sont très importantes. En France, on a le Grand Ordre de France ou la Grande Loge de France, qui ont aussi des ramifications à l'étranger, qui avaient, au temps où la France avait encore une politique coloniale, heureusement terminée d'ailleurs, des ramifications, beaucoup d'ailleurs sur le continent africain. Et vous avez aussi beaucoup de loges anglo-saxonnes dans un autre régime, qui est la Grande Loge nationale, qui est plutôt un rite, une obédience anglaise, en fait, à laquelle ont participé les plus grands fondateurs, d'ailleurs, des États-Unis, comme Benjamin Franklin ou George Washington. Donc ce sont des obédiences, en fait.
Oui. Vous dites que c'est une organisation qui a une philosophie sociale, etc. On parle même d'un réseau de fraternité humaniste. Quel genre de contribution sociale que vous apportez?
Alors, en fait, le but, moi, c'est pour le but noble. Je considère que la maçonnerie est noble, sinon je ne serais pas, de toute manière. C'est en fait d'essayer de travailler sur l'amélioration matérielle et morale de l'humanité, c'est-à-dire de se poser, dans le cadre de rituels qui sont définis, mais des questions existentielles pour essayer de partager en toute fraternité des idées, pour après pouvoir se faire une opinion qu'on peut après relayer dans la société par divers moyens. Donc ça, c'est important. Et le deuxième aspect, c'est un aspect de solidarité, puisqu'on a aussi des offres de bienfaisance dans toutes les obédiences, que ce soit auprès des personnes qui nécessitent ou des personnes âgées, etc. Il y a beaucoup d'institutions parallèles, en fait.
Il y a une très mauvaise perception sur la franc-maçonnerie. Les francs-maçons sont même persécutés dans certains pays. Ils ne peuvent pas se montrer, ils doivent se cacher. Pourquoi ça, selon vous?
Alors, il y a deux choses dans votre question. Il y a d'abord, est-ce qu'on peut être maçon partout? La réponse est non, clairement. Dans les dictatures et autres régimes autoritaires ou totalitaires, les gouvernements n'aiment pas que des gens puissent se rassembler ensemble dans des endroits qui sont fermés pour pouvoir discuter de sujets. Ça ne s'appelait pas du tout. Donc, il est certain que la démocratie accueille la franc-maçonnerie. Mais dans les pays totalitaires, c'est toujours de la répression. On l'a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale, les maçons ont été persécutés parce que ça ne plaisait pas qu'ils se réunissent, effectivement. Le deuxième aspect qu'on peut percevoir dans votre question serait l'aspect perception de certains francs-maçons qui auraient des trafics d'écufrés, des trafics d'influence ou autres. On a eu des affaires sur la franc-maçonnerie comme ça. Alors, j'allais dire, la franc-maçonnerie est un art noble. Des francs-maçons, c'est comme dans toute société, il y a des gens qui sont plus ou moins recommandables. Mais en tout état de cause, la franc-maçonnerie est vraiment quelque chose qui permet d'avancer dans la vie de façon individuelle et après de façon collective.
Y a-t-il des conditions pour adhérer? à ce genre de mission?
Alors, ça dépend un petit peu des obédiences. Ceci étant, vous avez actuellement des sites, même sur Internet, où vous pouvez poser une candidature. Ce sont des institutions qui procèdent par cooptation. C'est-à-dire que si vous voulez adhérer, soit vous connaissez quelqu'un qui va vous présenter, donc il y a beaucoup de maçonneries différentes aussi, hein, les maçonneries sociales, il y en a qui sont plus philosophiques, il y en a qui sont symboliques, il y en a qui sont même christiques, donc il faut voir un petit peu où on peut aller, parce qu'on ne peut pas y aller à l'essai. Hein, quand vous y allez, il y a un rituel d'admission. Donc par cooptation, et après vous êtes convoqué, vous avez une série d'épreuves que vous allez passer, et si à l'issue de ces épreuves, les gens qui vous ont entendu, les frères qui vous ont entendu, estiment que vous pouvez les rejoindre, à ce moment-là, ils vont voter et vous allez pouvoir les rejoindre.
Une petite question avant de passer la parole aux auditeurs qui attendent en ligne. Y a-t-il des croyants parmi les francs-maçons? Est-ce qu'on peut croire en Dieu ou...
Oui, il y a des loges qui sont clairement déistes, il y a des loges qui sont clairement christiques, il y en a qui sont totalement agnostiques. Ça dépend, c'est pour ça que dans la mesure où on ne sait pas trop où on va, il faut toujours essayer de connaître un franc-maçon qui connaît la franc-maçonnerie, qui va vous dire en fonction de ce que vous êtes et de la perception qu'il a de votre personnalité, où vous pouvez aller. C'est certain que si vous mettez quelqu'un d'agnostique dans une loge déiste, il va être malheureux, il t'aimera pas.
Il y a aussi des membres musulmans, n'est-ce pas? Nous allons passer la parole à Brahima Doumbia qui nous comprend pas ce que c'est, pour lui c'est flou. Brahima, bonsoir.
Bonsoir à tous, bonsoir à tous les têtes de la VOA.
Vous avez suivi notre invité, M. Ferré, qui donnait des explications sur la franc-maçonnerie. Vous avez compris?
Effectivement, j'ai compris en quelque sorte que ce n'est pas une religion, puisque toute religion, quand même, d'un point de vue, est basée sur un dogme, en quelque sorte. C'est une philosophie, mais en réalité, moi, la franc-maçonnerie, je vois sur le net, je n'ai jamais vu quelqu'un, quand même, de mon entourage, ou bien quelqu'un dans la ville dans laquelle je suis, étant ou me pratiquant ce que moi j'appelle un secte, de mon point de vue. Je pense que j'aurais beaucoup, quand même, d'éclaircissements sur cette pratique, mais je pense que surtout, il y a un Dieu créateur et qu'il faut quand même penser à être soit chrétien ou musulman, de mon point de vue. Merci.
Mais il vient de dire qu'il y a des croyants, des chrétiens, des musulmans parmi les francs-maçons.
Effectivement, je l'ai entendu parler, mais quand on se réfère quand même aux paroles prophétiques, que ce soit de Jésus ou de Mohamed, on ne peut pas quand même être de ces religions et quand même pratiquer la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie de mon point de vue.
Merci Brahima pour votre point de vue. Hassan Omar Bolade, bonsoir.
Bonsoir.
Pour vous, c'est une secte qui veut dominer le monde et dispose des règles de rites à respecter. C'est votre commentaire sur la page Facebook. Est-ce que vous avez changé d'avis? Vous avez suivi quand même les explications de notre invité?
Pour moi, je maintiens toujours ma conception de ces francs-maçonneries, de ces sectes-là, de ces conceptions de zoologie ou sur le pétrole. Alors, moi, la question que j'aimerais poser, c'est: est-ce que tout le monde peut participer ou adhérer à la franc-maçonnerie, ou est-ce que tellement il y a des classes sociales ou des statuts sociaux dont il faut avoir pour participer et adhérer et pratiquer les rites de franc-maçonnerie?
Et reste en ligne, M. Ferré, vous avez entendu la question, une réponse à M. Hassan? Monsieur Ferré.
Un obstacle pour moi, en tout cas, à une adhésion dans une loge maçonnique. Vous avez certains rites qui travaillent sous la gouverne de ce qu'on appelle le grand architecte de l'univers. Et ce grand architecte de l'univers permet de mettre qui on veut derrière. C'est-à-dire, soit vous mettez rien, soit vous mettez Jésus, soit vous mettez Mahomet. Vous mettez qui vous voulez, personne ne vous posera de questions. On n'est pas là pour parler de religion. On est là pour parler de l'homme, des problèmes existentiels qu'on peut rencontrer, des problèmes de société qu'on peut rencontrer. Mais on fait abstraction de la religion. Moi, dans ma loge, j'ai un musulman, j'ai deux juifs, j'ai des chrétiens, j'ai des protestants, des catholiques. On ne parle jamais de la différence. Ou alors, chacun vient parler de sa différence en disant, chez moi, on considère que. Et au contraire, c'est ça qui va enrichir le débat. On n'est pas là pour juger un tel ou un tel. Chacun apporte sa pierre à l'édifice en faisant part de son expérience et éventuellement de son appréhension religieuse d'un phénomène. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est la diversité qui va amener une construction riche.
Romali, nous retrouvons Diarra Kanyoumé. Bonsoir Diarra.
Diarra Kanyoumé.
Vous avez la parole.
Ok, à mon avis, je pense que Eric, il faut imaginer que d'aujourd'hui, les francs-maçons, il faut imaginer qu'il y a plusieurs personnes qui rentrent dedans par rapport à leur recherche. Il faut imaginer, quand tu prends, au moins, il y a une suite, quand tu rentres dedans, tu vas voir, au moins, il y a beaucoup de différences personnes, par exemple, comme les dirigeants qui ont leur nom dedans, donc avec les grands joueurs, ils ont leur nom dans les francs-maçons. Donc, à mon avis, je pense que vraiment, chacun a son choix dit pour tous ceux qui aiment. De francs-maçons et ils ont aimé cette francs-maçons pour rentrer dedans. Ceux qui n'ont pas aimé, n'ont pas qu'ils vont s'abouter par rapport à leur religion. Donc, à mon avis, je pense que chacun a son choix pour aimer certaines choses, à mon avis, Eric.
Merci Diarra. Bakary Keïta, vous êtes toujours au Mali. Vous êtes au Mali, je veux dire. Bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Une question ou une meilleure compréhension? Vous venez de découvrir quelque chose? D'apprendre quelque chose?
Quelque chose, mais je vais essayer quand même de poser certaines questions à notre invité.
Allez-y.
J'aimerais savoir si, par exemple, à travers la décision de la franc-maçonnerie, il a parlé quand même de la philanthropie et de la morale. À travers ces deux notions, est-ce que la franc-maçonnerie ne touche pas un peu quand même les religions révélées? Parce que toute religion est philanthrope, parce qu'elle prône aussi l'amour du prochain. Vous voyez.
Monsieur...
Donc la deuxième question que je vais poser...
Attends, Bakary, on passe la parole à M. Ferré pour répondre à cette question directement avant de passer à la deuxième.
Je maintiens que la franc-maçonnerie n'est pas une religion, sauf à ce que vous considériez que la fraternité est une religion.
Bakary, la deuxième question.
Oui. La deuxième question, pourquoi la franc-maçonnerie n'est pas tellement bien connue en Afrique et pour y adhérer étant en Afrique, quelles sont quand même les démarches à suivre?
Monsieur Ferré.
Alors là, je ne peux pas vous renseigner parce que je ne sais pas effectivement quelles sont les loges et les obédiences qui sont dans vos pays africains respectifs. Après, si vous avez des connexions Internet, je crois que le mieux, c'est d'aller sur des sites des grandes obédiences, comme les grandes loges nationales ou le Grand Orient de France, par exemple, qui je sais, a des loges en Afrique. Et à ce moment-là, vous aurez des liens qui vous sont proposés, si vous ne connaissez pas vous-même quelqu'un de franc-maçon, qui vous permettront déjà de vous renseigner sur ces sites-là. Et après, de voir... parce que je sais que sur les sites, par exemple, du Grand Orient de France, vous pouvez poser une candidature. Et la candidature, ça prend du temps, hein, sera examinée, sera orientée vers la loge la plus proche de chez vous. Donc si vous avez une loge la plus proche de chez vous, automatiquement, vous serez orienté vers les frères de cette loge qui, à ce moment-là, vous donneront la procédure à suivre.
Monsieur Ferré, on dit qu'il y a des chefs d'État africains qui sont membres de cette organisation. Vous confirmez?
Alors, je ne confirme ni n'infirme parce que je ne le sais pas et je ne me suis pas renseigné sur ce point. Il y a dans les loges, que ce soit en France ou des dirigeants politiques, il y a des gens de toutes... moi, j'ai des ouvriers dans ma loge et des présidents de tribunaux. Je veux dire, il y a un principe d'égalité qui est orchestré d'ailleurs par les rituels qui sont en place où tout le monde peut s'exprimer dans les mêmes conditions, dans les mêmes temps, sur le ressenti d'un problème. Il n'y a plus de caste. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'au départ, au XVIIIe siècle, les nobles et les roturiers étaient mélangés dans les loges. Et ça a été la première marche de l'égalité du XVIIIe siècle.
Il y a Tony en ligne. Tony, bonsoir.
Allô.
Tony, vous êtes là, vous nous entendez?
Oui, je vous entends.
Voilà. Est-ce que vous avez maintenant une meilleure compréhension de ce que c'est la franc-maçonnerie?
Oui, je comprends bien maintenant le rouage de la franc-maçonnerie.
Vous avez une question à poser?
ma question est de savoir pourquoi en Afrique on a une telle idée sur la diabolisation de ce cheval. Bien, peut-être qu'on ferait.
Monsieur Ferré.
Ça, c'est la première.
Monsieur Ferré.
La réponse est très simple, à mon avis, parce qu'elle n'existe pas simplement en Afrique, elle existe partout. Quand on ne sait pas, on craint la chose, parce qu'on ne la connaît pas. Et c'est vrai qu'on ne peut pas dire, tiens, cet après-midi, je vais aller dans une loge maçonnique pour voir comment ça marche. Ça ne marche pas comme ça. Pour aller dans une loge maçonnique, il faut être franc-maçon. Donc, il faut avoir été accepté comme franc-maçon. Donc, il y a une procédure à suivre. Et donc, je comprends bien que les gens qui ne connaissent pas puissent craindre quelque chose. Après, la franc-maçonnerie, ce n'est pas une secte, parce que en France notamment, je ne sais pas dans les autres pays, mais tout le monde est connu. Je veux dire, il suffit d'aller à la préfecture, ce sont des associations, vous avez le nom de tout le monde. Aux États-Unis, c'est encore moins discret, puisque en France, ce n'est pas secret, c'est discret, mais aux États-Unis, ce n'est pas discret du tout. Vous avez des gens qui se promènent avec un symbole maçonnique sur le veston. C'est pas, après, encore une fois, je comprends que ça puisse inquiéter dans la mesure où on ne peut pas aller voir comment ça se passe si on n'est pas franc-maçon. Et ça, c'est en fait cette crainte qui a toujours existé et qui existera, je pense, toujours.
Tony, une autre question ? La dernière ?
Oui. La dernière, bon, ça va, ça confirme déjà la seconde.
Merci à Tony. Allô, Tony, merci, bonne soirée chez vous. Steve, oui. Steve Boko, vous êtes en ligne, bonsoir.
Monsieur le journaliste.
Je vous écoute.
Oui, moi j'aimerais savoir pourquoi, si les gens rentrent dans ce fonds maçonnerie, automatiquement ils deviennent riches. Est-ce que ces fonds maçonneries qui les apportent de l'argent de façon orthodoxe ou on ne sait qu'est-ce qui est le lieu de cette richesse? Je voudrais savoir.
Monsieur Ferré.
Alors, moi, j'ai pas cette sensation-là, encore une fois, je veux dire, dans les loges françaises, moi, je connais pas les loges dans les différents pays, mais il n'y a pas de classe sociale particulière dans les loges. La seule chose qui pourrait faire obstacle à la venue de tout le monde, ou au moins la candidature de tout le monde, ça serait des cotisations qui sont perçues, mais bon, elles sont proportionnelles généralement au train de vie qu'il y a dans le pays. Ce sont des cotisations pour organiser, justement, les réunions, etc., etc. Mais c'est pas parce qu'on va rentrer en maçonnerie qu'on deviendra plus riche ou plus pauvre. Hein. Ça dépendra en tout cas de cause, pas de la loge dans laquelle vous êtes, ça c'est certain. Après, quand vous rentrez dans une société, vous allez connaître des gens nouveaux, vous allez peut-être avoir des opportunités nouvelles parce que vous connaissez des gens nouveaux, mais si vous allez rentrer dans une association quelconque qui ne soit pas franc-maçon, ça sera pareil. Vous allez connaître des nouveaux gens dans une nouvelle sphère et vous aurez peut-être d'autres opportunités. Mais dire « je vais en maçonnerie pour être riche », ça non, ça... Il faut être riche spirituellement, hein, puisque en maçonnerie, en France, on parle de spiritualité laïque, c'est-à-dire qu'il faut être entier, il faut se donner, il faut arriver à participer aux réunions en toute sincérité, c'est encore un mot important, et à ce moment-là, s'il y a une richesse, c'est la richesse spirituelle et intellectuelle, il faut vouloir participer à un mouvement philanthropique, en fait.
Voilà, il y a des auditeurs qui posent des questions ou qui émettent des avis. Archiduc Théodore Ndjamena, il dit la franc-maçonnerie, c'est une secte visant le luxe et la vente de l'âme. Raymond Rushima, la franc-maçonnerie est une plateforme des personnes négatives désireuses du pouvoir, bon honneur et connaissance. Ils prétendent être philanthropiques, mais leurs pratiques sont dans loin. L'amour, il y a certains qui parlent même d'une organisation satanique, la Shilo Luboya, la franc-maçonnerie, est une organisation de sorciers qui voulait juste défier le Tout-Puissant, Dieu le Tout-Puissant. Il dit que ce sont des homosexuels. Monsieur Ferré, une petite réaction par rapport à ces commentaires.
Alors, vous savez, je suis très tolérant et j'entends les choses que peuvent dire les gens. Il n'y a rien qui ne m'affecte, dans le sens où ces accusations, ce sont des accusations de gens qui ne connaissent pas la chose. Et encore une fois, je m'en suis expliqué tout à l'heure, c'est difficile de connaître sans y être parce que c'est impossible si on n'y est pas. Après, ce sont exactement les mêmes accusations qui ont été portées, par exemple, au XIIIe siècle contre les Templiers. C'est la même chose. Parce qu'ils n'étaient pas accessibles au public, à tout le monde. Ils avaient des réunions qui n'étaient pas publiques. Donc dès lors qu'on n'est pas public, on attire les foudres, on attire les inquiétudes. Et après, d'inquiétude, on parle de secte, alors c'est pas du tout sectaire. Et je comprends les inquiétudes de certaines personnes. Mais il ne faut pas être inquiet, il faut venir.
François Élisée, il dit c'est une société satanique. J'ai été chauffeur d'un membre de cette société au Liberia, à Monrovia. Patrick Caff, des serviteurs du mal, ils doivent se repentir et croire en Jésus-Christ et ils seront sauvés. Maming Rodrigue dit « J'ai toujours pensé que l'adhésion des Africains au culte et à l'exotérisme occidental diminue les Africains, car celui qui donne est supérieur à celui qui reçoit. En plus, dans cela, on parle du rite égyptien pour amadouer les Africains. En réalité, pour moi, la franc-maçonnerie et autres sont des moyens d'avilissement des Africains qui ont le devoir de reconnaissance et d'obéissance aux parrains blancs. » En 10 secondes, M. Ferré.
Sur ça, sur ce que vous venez de dire, je répète un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il ne faut pas penser ça, parce que ce sont des pensées négatives, et peut-être que certains ont eu des expériences négatives en connaissant de mauvais francs-maçons, c'est possible, il y a des mauvais gens, de mauvais gens partout, mais pour autant, il ne faut pas tomber dans les lieux communs qui ne sont pas exacts comme ceux que je viens d'entendre. Après, encore une fois, je ne connais pas les pratiques dans les différents pays, je ne peux parler que de la mienne, et je peux vous dire que c'est une association d'hommes libres, ça c'est certain, et de bonnes mœurs.
Nous avons un auditeur en ligne, Apollinaire, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes au Tchad, votre question ou un commentaire?
Oui, c'est un commentaire.
Allez-y.
Oui, la franc-maçonnerie est une pratique satanique, parce que c'est des pratiques qui dépassent l'entendement de l'homme. C'est-à-dire que tout ce que les francs-maçonneries font, ça ne reflète pas la réalité. Donc c'est à peu près les surnaturels.
Monsieur
Donc,
Ferré,
c'est pas du tout. Oui.
Monsieur Ferré.
Ah. Oui, c'est pas du tout surnaturel. Réfléchir sur l'homme, c'est pas surnaturel. Après, si on accepte dans la vie de s'arrêter à une vision dogmatique des choses, c'est-à-dire que quelqu'un vous a dit que c'était comme ça, que c'était pas autrement, effectivement, il faut pas venir en franc-maçonnerie, parce qu'on cherche toujours à comprendre l'homme. Donc on s'arrête pas à ce que dit l'un ou à ce que dit l'autre, on essaye soi-même, parce qu'on est libre quand même, d'essayer de réfléchir seul et ensemble après dans les loges, à l'homme justement dans sa plénitude.
Il y a Freeman Amboka qui dit « La franc-maçonnerie est une organisation conspirationniste qui influence les politiques, les députés, les gouvernements, établir des lois au profit des plus riches, d'un côté le peuple, les ignorants, les pauvres et les esclaves, soient assujettis aux maîtres, aux esclavagistes et aux richissimes capitalistes, banquiers et marchands d'armes, des industriels pharmaceutiques et agroalimentaires. » Il y a Gigi qui a une perception positive. La franc-maçonnerie est une organisation qui a un but de faire avancer le monde positivement. Ils sont tous à l'origine de grandes constructions, des institutions, loin de tout ce que on leur reproche. Et Bossori dit les francs-maçons, les illuminés, la Rose-Croix existent depuis des millénaires. Ça remonte jusqu'à l'Égypte ancienne. Aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur. Tous les chefs d'État, les plus riches, les personnes influentes, les grandes stars sont tous des membres. Ils ont infiltré dans les églises depuis des siècles. C'est l'islam qui seul les dérange. C'est pourquoi ils ont créé des sectes terroristes pour faire peur et empêcher sa croissance. Ils financent les médias en sorte que les peuples restent dans le noir. Ils veulent créer un gouvernement global. D'ailleurs, aujourd'hui, tous les gouvernements ont le même système. La crise économique mondiale, c'est du mensonge. Leur Dieu, c'est Satan. Leur objectif nous conduira tout droit à la fin des temps. Monsieur Ferré, vous avez 45 secondes pour mettre un commentaire.
Simplement, je crois que vos auditeurs nous donnent beaucoup de pouvoir de façon générale, parce qu'on n'a pas tous les pouvoirs qui soient sataniques ou économiques qu'on veut bien nous prêter. On n'est plus sous la Troisième République en France, où effectivement il y avait des influences extrêmement importantes au niveau politique, qui ont toujours été dans le sens non de loi pour les riches, mais de loi pour faire en sorte que tout le monde soit libre et égaux selon la...
Que faut-il retenir quand on parle de francs-maçons?
Égalité, fraternité.
Que faut-il retenir? Si on me dit quelqu'un est franc-maçon, en deux mots.
Quelqu'un est franc-maçon, essayez de le côtoyer et de discuter avec lui. Je pense qu'il sera toujours ouvert.
Merci, monsieur Ferré, pour votre contribution dans ce dialogue des religions. Merci à tous les auditeurs qui ont posé des questions et à tous les auditeurs qui ont émis leurs commentaires sur la page Facebook Eric Manilakiza. Je vous souhaite une agréable soirée chez vous.